Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Allô, allô, bonjour. On se retrouve à un autre épisode de Avis Avisé avec moi-même Antoine, toujours là, toujours présent sur la chaise. Aujourd'hui, je n'ai pas mes collègues avec moi, mais j'ai trois invités. Ils vont pouvoir se présenter un après l'autre, horloge, non horloge, vous allez dans le sens que vous voulez. Je vous en montre le nom, pronom, si besoin est, et étude. Et le rapport avec la thématique d'aujourd'hui, qui sont les maladies, les troubles et les handicaps physiques et mentaux que nous avons peut-être, vous, personnes qui nous écoutez, et nous-mêmes. Et voilà, donc... ouais, on va parler à droite, parfait.
OK, c'est bon. fait que moi, c'est Zelda, je suis à la maîtrise en biologie à l'Université de Sherbrooke. Puis je suis là parce que j'ai un trouble bipolaire.
OK. Parfait. Puis depuis toujours...
Sûrement depuis toujours. Mais j'ai été diagnostiquée quand je suis arrivée au Québec, donc il y a 3 ans. Là.
OK. T'avais pas...
Bon, on pourra en reparler.
On pourra en parler, ouais,
d'accord. La santé mentale en
parfait.
France.
Nice. On va encore bâcher à la France, je le sens. un sujet qui arrive très souvent, pour ceux qui nous écoutent depuis le début... on fait beaucoup de comparaisons France-Québec et on remarque des problématiques des deux bords. Parfois, on a des problématiques au Québec aussi. Prochaine personne, oui, vas-y.
Ben, moi, c'est Julie. Je suis aux études et je travaille à temps plein. Je suis aux études au micro-programme dans le cadre d'un retour aux études pour aller en gestion et en marketing. Et moi aussi, j'ai la maladie affective bipolaire. J'ai mon diagnostic depuis que j'ai 17 ans. Fait que ça va faire 11 ans cette année. Et je suis là pour en discuter puis peut-être aider certaines personnes qui nous écoutent à voir qu'ils ne sont pas tout seuls.
Parfait, parfait. Puis la dernière personne.
Bonjour, moi c'est Victoria. Je viens de la France et je suis étudiante au DESS DPE, Droit et politique appliquée de l'État, depuis cette session. Et je suis ici pour parler de l'endométriose. J'ai été diagnostiquée il y a quelques mois, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai depuis toujours, ou en tout cas depuis mon adolescence.
Parfait. Parfait. Moi, je vais vous parler de rien. Parce que, j'ai pas de diagnostic en tout cas. Là, peut-être hypersensible. Je trouve que c'est un enfer. Je me suis auto-diagnostiqué hypersensible. Ça serait du sens. Fait que peut-être. J'en ai déjà parlé quand j'ai parlé d'anxiété. Si j'en avais un, ça serait plus ça, l'anxiété. Là. Mais c'est ça. Fait que moi, j'ai vraiment être là pour poser des questions, m'intéresser à ces belles personnes-là devant moi, puis vous parler, puis questionner le monde. Pour partir de mon pied, il nous reste un peu de minute avant la première pause. Parle-moi de la France. Vas-y. Bâchons la France.
La santé. En ouais. France, ouais. C'est très tabou. Enfin, plus qu'ici, je trouve. Mais j'aime pas trop faire les comparaisons parce que c'est comme si on se flattait un peu l'épaule au Québec de se dire on est mieux que la France. Mais si la France n'existait pas, qu'est-ce qu'on penserait de nous en fait?
On serait anglais. C'est ça qui arriverait. mais c'est pas une question de bâcher, mais c'est plus une question de comprendre comment ça t'as pas été diagnostiqué. Plutôt, c'est-tu parce que. C'est-tu coûte-tu plus cher pour faire ça? C'est-tu parce que c'est moins pris au sérieux? C'est-tu parce que t'es un enfant pis t'es comment? T'es un enfant, tu sais pas de quoi tu parles. Fait.
Ouais, y a beaucoup de ça que c'est pas pris au sérieux. Puis quand tu vas chez le médecin, on te dit fais du sport ou alors t'es jeune, tu manques de fer.
Et ça aussi, on l'arrive ici, nous, au début. C'est souvent les premières affaires qu'ils disent, c'est d'essayer de trouver une solution pour compenser. Puis si ça marche pas, là, ils vont prendre des médocs. Puis si, là, après, il va y avoir des thérapies aussi, après, par la suite.
Oui, puis c'est important de mentionner, entre autres, que l'accès aux services de soins pour les maladies mentales, même au Québec, c'est très difficile.
Oui, oui. Puis à l'école, surtout, là, à l'école, c'est vraiment compliqué. Là, de... Ça arrive de temps en temps. Là. Moi, je me semble qu'il y a plus ou moins un psychologue par école. Plus ou moins. Là. En tout cas, université, on en a, puis cégep, puis on a en général. Secondaire, primaire, non, me semble pas. Là. Il y a une psycho-éducatrice, mais ça peut aider. Là. Mais puis secondaire aussi, mais je sais que parfois, il y a des psychologues dans des secondes, dans des, mettons, des polyvalentes ou des écoles vraiment, genre,
oui, mais il faut que les élèves sachent qu'est-ce ouais. qu'ils doivent demander ou qu'est-ce qu'ils doivent dire pour, ouais. pour qu'on puisse l'identifier, parce que c'est pas nécessairement visible dans l'attitude de la personne.
Ouais, c'est, ouais.
Comme une maladie physique, là, il y a des gens qui ont des conditions qu'on n'est pas au courant, mais pourtant, ouais. ils vivent avec ça tous les ouais. jours. Là.
Mais comme tout ce qui est genre des problèmes du côlon irritable, par exemple, ou des enfants mmh. de même qui sont chroniques, là, qui, ça prend du temps à ça, puis parfois... il y a puis ça cette affaire là parce qu'en fait techniquement c'est pas une maladie là, parce que ça m'arrive aussi là, mais c'est plus comme une réaction du corps là, qui peut avoir une autre maladie en background. Moi personnellement c'est l'anxiété qui me le crée, mais ça peut être plein d'autres choses comme vraiment le fait de mal digérer certains protéines ou plein d'affaires. Il y en a qui... Je connais une personne, ben je connais une connaissance là, qui peut pas digérer les protéines. Genre, on peut pas. Genre, s'il fait ça, ça détruit son cerveau. Genre. Je sais pas si c'est trop le fonctionnement, mais c'est quoi, là, mais c'est ouais, c'est comme nécrosant s'il prend des protéines parce que ça son corps n'est pas capable de le métaboliser. Fait que j'ai une de mes élèves aussi qui avait des problèmes, puis ils savent pas c'est quoi. Elle peut rien manger. Rien. Dès qu'elle mange, qu'elle boit de l'eau, ça fait quelque chose dans son corps. Fait que, et moi, il y a des choses, évidemment, qu'on ne voit pas, puis qui sont tout de même physiques, comme l'endométriose. Ça, tu vis ça depuis combien de temps?
Moi, je dirais que je vis ça depuis mon adolescence.
Genre le début des règles, tu penses?
Oui. Okay. Oui. Moi, j'ai eu mes règles assez jeunes. Et j'ai tout de suite eu des règles très douloureuses.
OK.
Très, très, très douloureuses. J'allais pas à l'école pendant une semaine.
OK, genre pas capable de te lever.
Ah
puis,
non, okay. J'étais pas capable. J'arrivais plus à réfléchir, je vomissais. Vraiment, j'étais pas bien. Et à mes 15 ans, ma mère a dit, bon, là, ça suffit, on va aller voir la gynécologue et on va voir ce qui se passe parce que c'est pas normal que t'aies autant mal. Et la gynécologue m'a dit très gentiment « Non, mais Victoria, c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. » Voilà. Et non, ce n'est absolument pas normal d'avoir mal pendant ses règles. Et ça, c'est un truc... C'est pour ça aussi que je suis là. C'est pour dire que c'est pas normal. Et donc après, elle m'a prescrit la pilule pour atténuer un peu les douleurs qui ont été atténuées pendant quelques mois. Et puis après, c'est revenu. Et voilà, il y a peut-être 2 ans, mais pendant le Covid, pendant le confinement en France, je pense que j'étais très anxieuse. Et l'anxiété a fait que tout s'est...
Oh, c'est, ouais, tout... Parce que l'anxiété, en fait, qu'est-ce que ça fait, là, ça diminue ton système immunitaire. Ouais. Fait que ça fait que tout tes mois, après une grosse période de crise, après j'ai des aftes, j'ai mal au ventre, ouais, j'arrive pas à dormir, j'ai mal partout, mon corps se déconstruit de lui-même. Puis j'ai genre, ah! Mais ouais.
C'est ça. Et là, en fait, ben, j'ai commencé à avoir vraiment des douleurs encore pires que celles que j'avais avant.
OK.
Et je suis allée voir les médecins, et bon, après... Au fur et à mesure du temps, on me disait non, c'est normal d'avoir mal pendant ces règles, encore une fois, c'est dans votre tête.
Il y a un, je pense qu'il y a un truc de... Ça peut faire mal, ça peut faire des crampes, me semble. Je ne sais point. Ouais. Je pose la question aux autres à quel point...
Mais c'est juste qu'on t'habitue très jeune à dire ben, faut que tu supportes cette douleur-là. Et puis, mais moi, je trouve encore aujourd'hui, j'ai pas le réflexe de prendre des médicaments pour justement gérer la douleur.
Ouais.
Je devrais le faire directement dès le début. Puis il y a vraiment ce côté infantilisant de dire bah ça va de toute façon t'es une femme.
En voyant ça encore, ouais, t'es une femme, même dans le temps ils croyaient pas les femmes parce que ben ils sont plus fortes. Fait que quand ils ont mal, ben ils croyaient moins souvent la femme dans les hôpitaux aux États-Unis. Puis ça arrive encore là, aux États actuellement, puis sûrement dans d'autres pays, même au Canada, là, dans certains hôpitaux.
Mais je vais faire un lien aussi avec les maladies mentales. Ouais. C'est un peu le même principe, ce qu'on voit quand tu... Tu sais, quand moi, je suis allée consulter à 17 ans, là, je me suis fait dire, ben, c'est juste l'adolescence.
On croit pas à ta souffrance. C'est comme, mais non, c'est normal, c'est tes hormones.
Puis c'est ça, jusqu'à un certain point, j'avais déjà été consultée par le passé, puis c'était ça, c'est trouble d'adaptation, il y a trop de changements, etc., je gère pas bien. Puis quand j'ai eu mon diagnostic, là, au début, ça a été très difficile parce que je l'acceptais pas même personnellement. Tu sais, je me disais, c'est impossible que j'aie ça, je veux dire, ça, j'ai pas de facteur de risque, j'ai jamais pris de drogue, propriété d'alcool, etc. Puis ça a été un long cheminement, là. Fait que j'imagine juste que ce que Victoria l'a traversé, là, c'est encore plus évident, tu sais, c'est physique, là. Puis ces gens-là, ils réalisent pas nécessairement que, tu sais, on invente pas ces choses-là, là.
Mais après, c'est physique, mais l'endométriose, ça se voit pas.
Ben c'est ça. C'est pour ça que je faisais un lien. Ouais, c'est quelque chose que les gens peuvent pas voir. À même titre, quelqu'un qui a un problème de la vision, si tu le dis pas ou si t'as pas de lunettes ou t'as pas une canne, ben il y a personne qui peut le savoir, là.
C'est ça.
Ouais, mais c'est ça. Mais après, clairement que y a un gros affaire à changer au niveau des médecins un peu partout dans le monde, de faire de croire les personnes.
Ouais.
C'est comme c'est croire les patients, en fait, au final, puis dire... moi, je me souviens quand j'avais fait une crise de panique, et j'ai fait une fois une crise de panique. Mais deux fois, mais l'autre, j'y ai pas atteint. Genre, j'y allais, mais une fois, l'année passée, je changeais d'appartement, mais pour vrai, ma semaine, j'étais en train d'écouter, la vue va bien, le gars que je voyais, ça allait vraiment bien, la fréquentation, tout vraiment allait bien. J'avais pas de stress. J'avais une petite toux, mais comme normal, je m'inquiétais pas pour ça. Puis... moi, il était 2h le matin, j'étais comme, il faudrait vraiment que je m'endors, sinon j'arriverais pas à dormir pour aller à mon cours demain matin. Puis je sais pas pourquoi, j'écoutais de quoi, puis là, pouf, à un moment donné, crise de panique de même. Puis c'était l'inconscient, là. Puis là, là je vais faire vite parce qu'il y a une petite pause qui se pose arriver. Mais je m'en vais dans... fait que là, j'essaie de me gérer, je me dis, j'ai mal au ventre, je me dis, je vais manger, j'ai peut-être faim. Finalement, non, ça marche pas, ça bloque. J'arrive vraiment pas, j'ai encore plus mal, c'est bloqué. J'avais pris des Advil avant pour essayer, Advil nuit pour dormir, pas fonctionner. Et là, ça fait 1 heure, je suis dehors, je suis couché à terre sur mon palier en avant en essayant de respirer. J'appelle l'ambulance. Là, je dis, ouais, je pense que je fais une crise de panique ou je sais pas quoi, est-ce qu'il y aurait moins de. J'ai vraiment mal au cœur. Je savais pas si c'était une crise de panique, après là, j'étais comme, j'ai mal au cœur, j'ai l'impression, puis moi, je sais que dans ma famille, on a des problèmes de cœur. Moi, j'étais comme, yo, j'ai une crise de cœur, genre, je peux mourir. Fait que là, j'appelle. L'ambulance arrive, elle me prend. Le gars, il fait, non, mais t'inquiète pas, c'est juste une crise de panique.
Ouais, c'est normal.
Ta gueule? Veux-tu vivre? Veux-tu le vivre? Veux-tu... On échange nos corps pour vrai pour le reste. J'étais comme, ta gueule. Pour elle me dire, c'est juste une crise de panique, c'est pas juste une crise de panique.
Non, c'est ça.
C'est plus grave qu'une crise de panique.
En fait, je pense qu'il faudrait, que les médecins apprennent à écouter les patients et à arrêter de minimiser. Tout ce qu'on dit, parce que tout ce qu'on ressent, parce que si on vient parce qu'on a mal quelque part, c'est parce qu'on a vraiment mal. Voilà. Après, il y en a qui viennent parce qu'ils sont pas mal, et ça, ok. Mais je pense vraiment qu'il faut écouter les patients.
Voilà,
mais
sur ce bon mot d'écoute, et nous, on va retenir nos paroles et on va revenir après la petite pause pour vous continuer ce petit sujet qui a l'air croustillant. Yo! Après la pause... Zelda, t'allais dire de quoi?
Oui, je voulais dire que la médecine puis la psychiatrie en général, c'est très paternaliste, puis on gagnerait...
ça, c'est paternel.
Un petit peu. On gagnerait beaucoup à faire un peu de la médecine participative, là, donc comme de réfléchir avec les patients, puis en fait dans toutes les autres sphères de la médecine en général, mais la psychiatrie, c'est vraiment problématique, là, je trouve.
Genre de pas que, genre, le patient arrive, dit son problème, le médecin fait « OK », il regarde de son côté, genre. Vraiment de « OK, je vais vous montrer des affaires, genre, on va checker ensemble, puis on va... »
Ben, tu sais, on se fait souvent dire « Ouais, t'as regardé ça sur Internet, mais Internet, il y a beaucoup de choses fausses, sauf qu'on sous-estime les communautés sur Internet, puis... » c'est comme ça que tu découvres des choses. Ben, j'imagine, toi,
l'hypersensibilité. C'est un YouTuber qui fait des podcasts aussi. C'est français, d'ailleurs, je sais pas, Bénévert. Si vous connaissez, ok. Mais il fait des podcasts puis tout, puis lui il est hyper sensible, puis il en parlait, j'étais comme yo, est-ce que tu es la même personne que lui là? On a-tu vécu la même vie? Suis-je bénévole? J'étais
mais comme. C'est ça, ça fait du bien aussi parce que là tu dis, hey, mais c'est moi en fait. Ouais. Donc, exactement. Tu te retrouves, puis là après t'arrives chez le psychiatre, puis comme.
Moi, ma mère. Tu crois? Ma mère. Je suis comme, moi je pense que tu es hypersensible, ma mère, genre, ben non, t'es pas hypersensible, genre. Puis j'étais comme. Ok, mais là, mes émotions, c'est rien, là. Non, c'est pas vrai que j'ai des. Genre, tu vois bien comme parfois, genre, j'ai des rêves, puis j'ai des dents, puis c'est vraiment pas. C'est juste. Moi, chaque émotion est extrême. Fait que, genre, je suis souvent joyeux dans la vie de tous les jours, mais si j'ai une affaire qui m'arrive dans ma journée, ça me chie ma journée. Je suis fini. Ça va vous ressembler. J'imagine qu'il doit y avoir, quand même des triggers, là, à ce niveau-là.
Ben, il y a la cyclothymie, là, qui ressemble aussi à ce que tu dis, c'est une sorte de bipolarité, mais qui est moins par grosse phase. Et puis, c'est vraiment dans ta journée où ça fait des montagnes russes, tout le temps.
OK. Mais non, ça... En tout cas, oui, il y a des triggers qui... ça déclenche les émotions. Puis, ma mère m'avait dit à un moment donné, mais non. Ou qu'à un moment donné, genre, j'étais malade. Puis, j'ai fait genre, oui, j'ai checké sur Internet. Elle fait, ah, toi, t'es hypochondriaque de toute façon. Là, genre, qu'est-ce que tu fais? Tu vérifies tout le temps sur Internet. C'est tu vas mourir demain. J'étais comme... J'ai vérifié sur Internet des affaires, puis j'avais raison. Puis c'est correct, c'est pas grave, mais j'ai fait, genre, j'ai quand même un... Quand tu regardes sur Internet, t'as quand même un sens logique derrière, tu vas pas croire qu'est-ce que c'est sur Internet. J'ai pas juste regardé un site, j'ai regardé plusieurs communautés, plusieurs sites, pendant plusieurs jours différents, j'ai posé des questions avec des personnes, puis ils ont répondu, puis ah, OK, on a la même chose, ah, OK, les affaires ont l'air similaires, donc c'est pas juste moi, là.
Mais je pense que tu as amené un bon point. Les générations précédentes, ils n'ont pas la même acceptation et la même connaissance non plus des maladies. Puisque ça a comme impact, ben moi aussi, je l'ai vécu. Là, mon père qui me dit, ben voyons, on arrête de broyer, là, puis gère-toi.
Ouais.
Mais tu sais, j'avais même si je voulais autant que j'aurais pu là, m'emmener, il y a des conditions qui existent, puis ça date pas d'hier, mais c'est encore très peu accepté dans la société, puis c'est très jugé.
Ah ouais.
T'sais, les préjugés, on pourrait en parler pendant 3 heures. Ouais, là,
ouais,
si
ouais,
tu voulais,
ouais là. Clairement. Là. Mais, fait que du coup, pour revenir à l'endométriose, fait qu'ils t'ont. Tout le monde. En fait, t'as vu combien de spécialistes différents qui t'ont dit non, c'est normal?
J'en ai vu beaucoup. J'en ai vu peut-être...
Puis toutes des hommes ou t'avais des femmes aussi?
Alors, moi, j'ai vu que des femmes gynécologues.
OK.
Après, j'ai fait beaucoup d'allers-retours aux urgences et il y avait beaucoup d'hommes.
OK.
Et bizarrement, je dirais que les hommes cherchaient plus à savoir ce que j'avais vraiment que les femmes. C'est très paradoxal.
Ah, ouais. Les femmes étaient peut-être genre, ah, ben non, mais moi aussi j'ai des règles, puis genre ça fait mal, fait que genre c'est normal.
J'entends beaucoup ça, mais ici je sais pas, mais en France on entend beaucoup ça que les hommes en gynécologie sont plus doux parce qu'ils savent pas en fait. Que les femmes, on dirait que c'est ben moi je le sais, puis je l'ai déjà vécu, c'est donc tu devrais gérer les choses un peu comme moi, mais tu sais, je fais des généralités,
c'est
pas. Monde.
Ouais, c'est ça le problème. Enfin, je pense que les femmes, elles se disent, bon, bah, moi aussi j'ai la même chose. Je prends un doliprane et puis ça passe. C'est ce qu'on m'a dit.
Ouais.
Après une IRM, ma première IRM, la radiologue m'a dit, écoutez, moi je vois rien à l'IRM, donc je pense que c'est pas grand chose, vous avez rien. Moi, j'ai dit oui, enfin, bon, si je suis là, c'est que j'ai quelque chose.
C'est à l'hôpital, c'est pas pour rien.
J'ai très mal, il y a un problème quelque part. Et elle m'a dit mot pour mot, bah, si vous avez un souci, ça doit être un problème gastrique, vous avez mal, vous prenez un doliprane, ça va passer.
Nice.
Je sais très bien que c'était pas ça, parce qu'après, j'ai vu d'autres spécialistes, tout ça, qui m'ont vraiment. Ouais.
Puis aussi, genre, quand le monde, il ne nous croit pas, on est comme, ben oui, mais...
Ben, je
connais... Ouais, mais je connais mon corps aussi. Je veux dire, tu sais comment ton corps réagit aux affaires. Après, OK, mais à 5-10 ans, peut-être pas, là, mais genre, moi, à 20 ans, là, je le sais, là, j'ai au moins une facilement 10 ans de conscience, là, quand même, ou qu'il y a la maturité qui est arrivée, puis que j'ai appris, puis tout. Je connais mon corps, là. Je peux dire que comme ça, c'était pas normal, genre. Ouais. Quand je mangeais ça, c'est pas ça que ça me fait d'habitude. c'est pas normal. Puis là, il y avait un problème. Mmh. Là, j'en parlais à ma mère. Par contre, j'avais des problèmes du côlon à cause, après une crise d'anxiété, en fait. J'avais fait, ouais, mais ça, j'ai vraiment mal quand je mange, c'est pas normal, genre, pis tout, je sais pas c'est quoi, j'essaie de trouver de quoi pour, genre, finalement, me trouver un régime qui fonctionne vraiment bien pour moi, pis tout. Elle était comme, mais non, mais c'est rien, là, genre, arrête de capoter, là. J'étais comme, non, non, genre, les crises, là, ça me faisait des malaises, fallait que je reste une heure après. Je mangeais quelque chose, trois minutes après, fallait que j'aille à la toilette, parce que ça activait tout mon système, puis après, fallait, je pouvais pas bouger pendant une heure de mon lit, là, genre, ça me, gros malaise, là, de. Genre, puis là, je suis en sueur, chaud, froid. Puis là, elle m'a vu, elle a fait, ah, OK. T'aurais peut-être allé à l'hôpital. J'ai fait, ah, oh, ben là, ça fait une semaine, je te le dis, mais c'est parce qu'elle me voit pas durant la semaine. Mais j'étais comme, il a fallu que tu me vois pour que tu me crois, genre.
C'est ça. Mais en fait, c'est... on se sent un peu. Enfin, moi, en tout cas, je me sentais bête devant tout le monde quand on me disait, bah, c'est rien, tu extrapoles tout. Alors qu'en fait, non, j'étais vraiment pas bien. Et. Pour le coup, la seule personne qui me comprenait, c'était ma mère, parce que ma mère vivait la même chose que moi. Okay. En tout cas, elle savait pas que.
Parce que elle savait même pas non plus.
Mais en fait, en tout cas, en France, je sais pas comment c'était au Québec, mais en France, on n'en parlait pas de tout ça.
Pas sûr qu'on en parlait tant que ça.
Et
non
ça
plus.
Doit faire peut-être 3 ans, 3-4 ans qu'on en parle vraiment, qu'il y a des influenceuses qui en discutent. Qu'il y ait des émissions spécialement pour ça, tout ça. Mais non, on n'en parlait pas tant que ça.
Je sais pas si nous, on a peut-être un peu plus longtemps, ça fait peut-être 5-10 ans, peut-être plus. Mais ça fait pas tant longtemps non plus. Je pense 2010-2012, pas mal, ça a commencé là, nous aussi.
Ouais. Pourtant, c'est une maladie qui existe depuis longtemps.
Depuis les règles. Depuis toujours, pas mal sûr que. Je pense même qu'il y a des animaux qui doivent en avoir aussi. Mettant chez les mammifères, pas mal sûr qu'il y a de l'endométriose chez eux aussi. Là. Je ne me connais pas, donc je n'irai pas dans ce point-là, mais. Supposition à rechercher. Fait que là, du coup, quand t'as eu ta. C'est quand que tu l'as eu en fait? Ça fait 2-3 ans, t'avais dit?
Mon diagnostic?
Ouais.
J'ai eu mon vrai diagnostic posé mois de mars-avril.
Ça a pris combien de temps avant d'avoir le final?
En fait, à partir du moment où j'ai commencé à avoir des symptômes qui étaient très forts et qui m'handicapaient la vie, je pense. Ça a dû mettre peut-être un an et demi, mais depuis mon adolescence, je vis ça. Et je crois en France, c'est le diagnostic qui met en moyenne entre 7 et 10 ans.
Ok.
Ouais.
T'as le temps de beaucoup de choses là-dedans.
C'est ça. Et je crois qu'au Québec, j'avais lu que c'était 5 ans.
Ouais, moi aussi j'avais 5 ans dans la tête.
Bon, c'est déjà un peu mieux, mais bon.
Mais là, ta mère, elle le savait pas. Mais là, est-ce qu'elle le sait maintenant? Est-ce qu'elle a fait des tests, elle aussi, de son bord? Ou...
Elle est en train de faire des tests. Okay. Parce qu'en fait, l'endométriose, le problème, c'est qu'on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas comment traiter.
Ouais.
On essaye de faire des trucs, mais on n'y arrive pas. Et il y en a beaucoup qui disent que c'est génétique. Et ma mère avait les mêmes symptômes que... Enfin, elle a toujours les mêmes symptômes que moi. Et quand moi, on m'a posé le diagnostic, elle s'est dit, bon, bah, peut-être que ça vient de moi. Donc, du coup, je vais aller voir. Et là, elle attend parce qu'elle fait plein d'IRM, plein d'échographies, tout ça. Mais ma mère, jamais de la vie, elle s'est dit j'ai de l'endométriose parce que déjà, de un, on n'en parlait pas. Et de deux, pour elle, endométriose signifiait qu'on pouvait pas avoir d'enfant.
Ouais, non, c'est ça, parce qu'il y en a que oui.
Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas avoir d'enfant, qui sont infertiles et tout ça. Enfin, qui sont stériles, du coup. Ouais. Mais elle a eu 2 enfants. Donc elle s'est dit moi, je peux pas avoir ça, c'est pas possible, j'ai pas ce problème-là. Et au final, peut-être que oui.
Puis c'est aussi, en fait, c'est parce que peut-être c'est quoi que ça fait l'endométriose? Parce que je sais que c'est pas tout le temps la même chose non plus. C'est pas, il y a comme un gradient, là, de.
Ouais.
Je sais qu'il y a un gradient, mais.
Bah,
c'est quoi que ça fait exactement?
Les symptômes?
Ouais.
Alors, après, les symptômes varient d'une femme à l'autre.
Ouais, c'est ça. Là.
Donc, c'est très compliqué de décrire vraiment. Quels symptômes vraiment sont propices à l'endométriose. Mais moi, personnellement, je ressens... quand j'ai mes règles, j'ai très, 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 très mal au ventre. J'ai très mal au dos. Je suis...
Genre en bas ici?
Ouais, en bas du dos.
En bas de... okay, ouais.
J'arrive plus à me concentrer. Je suis très fatiguée. Et le problème, c'est que... À partir du moment où, où les douleurs surviennent hors dehors des règles, là, ça devient problématique.
Okay.
Moi, c'est mon cas. C'est plus cyclique, mais moi, ça vient peut-être 10 jours après mes règles.
Okay,
et
okay.
Et j'ai très, très mal au ventre. J'ai une pointe en bas du ventre. J'ai très, très mal au dos. J'ai mal à la tête. Je suis fatiguée. Mais c'est de la fatigue chronique.
Bon, ouais.
C'est que la douleur me fait tellement mal.
Mais ton corps n'arrive pas à régénérer, en fait.
C'est ça. Vraiment, c'est, ouais. Mais après, il y a plein de femmes qui ont des problèmes au niveau de la digestion. Moi, je sais, j'en ai un peu des problèmes de digestion. Il y a d'autres femmes qui ont du mal à aller aux toilettes. C'est...
Puis je sais qu'il y en a aussi, tu as l'endométriose de naissance, ta génétique, ouais. Mais tu en as aussi par rapport à... j'ai pas le nom. la ménopause.
Oui, il y a la ménopause. Il y a beaucoup de diagnostics qui se font... Qui
après
sont
après la ménopause,
ouais, ouais. C'est ça. Puis il y en a beaucoup aussi qui ne savent même pas qu'elles ont de l'endométriose parce que ça peut être aussi asymptomatique.
Oui, c'est ça. Ben, ça, il y a un gradient d'échelle de à quel degré tu l'es, là, qui peut changer avec le temps aussi, d'ailleurs.
Exactement. Et le problème, c'est que quand on est asymptomatique, bah, ça se trouve, on a beaucoup d'endométriose et on ne s'en rend pas compte. Ou alors, on s'en rend compte au moment où on essaie d'avoir des enfants.
Ouais.
Et on se dit, mais pourquoi on ne peut pas avoir d'enfants? Et là, finalement, le gynécologue te dit, bah, vous avez de l'endométriose.
Ouais.
Alors qu'une femme, ça se trouve, elle n'a jamais ressenti ça de sa vie. Et enfin, j'en connais pas personnellement, mais j'ai lu et j'ai regardé beaucoup d'émissions où il y avait des femmes qui étaient asymptomatiques et parce qu'elles se sont fait opérer pour un truc qui n'avait complètement rien à voir ou qui voulait avoir des enfants, les médecins leur ont dit, bah, en fait, vous avez beaucoup d'endométriose qui est arrivée jusqu'au poumon, il y en a même jusqu'au cerveau.
Ouais.
Et là, c'est extrêmement problématique.
Mais c'est, l'endométriose, en fait, c'est quoi? C'est une bactérie? C'est un virus?
C'est des parties de ton endomètre,
okay,
qui se propagent à l'extérieur de ton utérus. Mais tu as aussi une variante de l'endométriose qui est l'adénomyose, où là, ton endomètre va se propager dans ton utérus.
Okay.
Moi, j'en ai pas. Pour le moment, on m'a pas diagnostiqué ça. J'espère. Je te dis moi. et voilà. Et en fait, le problème, c'est que ces tissus d'endomètre peuvent se propager sur les ovaires, sur la vessie, dans les intestins, dans les poumons.
C'est comme l'endomètre, c'est un, c'est comme la peau, en fait. Là.
Bah, c'est
mais
pas...
c'est un.
Bah, c'est un peu comme des nodules,
okay,
du sang,
parfait,
tu vois,
c'est
qui
ça
se propagent.
Parfait.
Voilà.
C'est ce qui se décroche quand,
ouais,
quand t'as tes menstruations.
Ouais, mais c'est ça, mais c'est comme. En fait, c'est comme si t'avais des cailloux qui se promènent dans ton
exactement,
corps.
Exactement,
ouais.
C'est un peu la même chose.
Ok.
Et donc, du coup, c'est problématique parce que si t'en as sur ta vessie, mais ça veut dire que t'as des problèmes pour aller aux toilettes. Si,
ouais,
t'en as sur tes intestins, t'as le ventre qui va se mettre à gonfler, tu sais pas pourquoi. Enfin, moi, des fois, je me réveille le matin, j'ai le ventre d'une femme enceinte. Alors que je sais très bien que je ne suis pas une
mais ça en pas.
C'est ça.
Okay.
Et la seule manière d'enlever ces des grosses nodules, c'est de se faire opérer.
Ouais.
Le problème, c'est qu'en tout cas en France, je ne sais pas comment ça se passe ici, en France, pour aller jusqu'à l'opération, c'est très compliqué. Enfin, moi, je trouve en tout cas que c'est très compliqué. Et pour l'instant, moi, je ne suis pas éligible.
Ok. Je sais pas, je me connais pas assez pour ici, n'ayant pas de vagin ni de j'ai pas cherché, j'aurais peut-être dû chercher, mais en tout cas, si quelqu'un le sait, qu'il partage, hein, qu'il partage l'information, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient le savoir.
Ouais.
Mais je pense que ça doit être long, mais moins long pareil, je pense. Je sais pas, en tout cas, je me suis jamais fait opérer en France. Enfin, je peux pas savoir c'est quoi Puis moi, ça serait pas pareil. Parce que je suis pas français, fait que c'est pas la même façon de gérer, mais je sais pas à quel point c'est long d'avoir tes diagnostics. Nous, ici, parfois, si t'arrives en ambulance, ils te font directement des scans, puis après, tu pars. Fait que je sais pas comment, si vous arrivez en ambulance en France, est-ce qu'ils vous font des scans? Fait que j'imagine que ça dépend de la manière que t'arrives là-bas. Si t'arrives en urgence, si t'arrives juste en patient, on part en avant, c'est pas...
Oui, ça dépend. En France, en général, on attend longtemps aux urgences, mais on m'a dit qu'on attendait énormément ici aussi,
ben,
aux urgences.
À Sherbrooke, c'est pas si long que ça.
Ah,
ça,
ouais?
Dépend les jours. En tout cas, moi, pour vrai, les fois que j'ai été, ça a pris 1-2 heures max.
Ah ouais?
C'est vraiment pas long.
Ouais, il y a des gens qui attendent plusieurs jours.
Ouais. Ah, ben peut-être, je sais pas. En tout cas, mais moi, j'ai vraiment pas été pour des affaires tant graves non plus, puis j'ai pas attendu tout le temps. Mais je pense que ça dépend de la journée que tu vas, en fait.
Ça dépend de la journée, ça dépend du moment de la journée.
Ouais.
Puis si c'est la pleine lune ou des affaires de même, ça l'influence aussi.
Oui, ah, c'est sûr que oui.
Ah bon?
Mais, j'ai une question, là, on parlait de diagnostic. Ouais. Moi, ça m'intéresse de savoir, toi, combien de temps ça t'a pris ton diagnostic? Parce qu'en santé mentale, c'est spécial aussi.
C'est plus long, je pense.
J'ai eu mon diagnostic assez rapidement dans le processus, mettons après 2-3 ans. J'ai vraiment commencé à avoir des problèmes à l'adolescence, là, vers 15 ans, mettons. Là. Puis maintenant, je suis capable d'en parler, mais dans ce temps-là, j'étais vraiment pas capable. J'ai fait une tentative de suicide à mes 15 ans parce que justement, je me faisais dire des affaires par tout le monde. « Ah oh, ben, gère-toi, c'est juste ta crise d'adolescence. »
Mais t'es pas capable de te gérer, fait que t'es comme « Mon Christ, je suis pas capable. »
Ben, c'est ça. Fait que moi, j'ai été hospitalisée à ce moment-là en pédopsychiatrie, puis la psychiatre qui était là m'avait dit « Ah oh, ben, c'est juste un trouble de l'adaptation, tu sais, t'as beaucoup de changements dans ta vie, ça va passer, puis tout ça. » Fait que ça a resté de même, puis à mes 17 ans, j'étais en situation de crise, je l'ai échappé, là. Puis je me suis retrouvée à l'urgence avec ma sœur, puis ils m'ont dit « Non, non, t'as pas un trouble de l'adaptation, t'as un trouble bipolaire. » Fait que comme la deuxième fois que j'ai été consultée, j'ai eu mon diagnostic.
Okay.
Mais c'était clair, là, je veux dire...
Depuis le début, j'en mets.
Mais c'est ça, tu sais, si j'avais été diagnostiquée au début, peut-être que je me serais pas rendue jusqu'où ce que je me suis rendue. Parce qu'on peut pas changer le passé, ça s'est fait comme ça. Mais j'ai eu de la chance parce que j'ai tombé sur des bons médecins après ça. Puis, tu sais, j'ai un médecin qui me suit. Puis, tu sais, je suis déménagée à l'extérieur de la province. Je suis allée vivre au New-Brunswick un an. Puis même là-bas, j'ai eu la chance d'avoir des excellents médecins. Mais tu sais, ce diagnostic-là, je veux dire, oui, je l'ai eu très jeune. Mais j'étais trop jeune pour l'accepter. Tu sais, c'est comme de dire « Ah, ben toi, tu vas vivre avec une jambe en moins toute ta vie. » Puis là, t'as tellement de choses qui te passent par la tête. Les gens vont-tu me juger? Comment je vais faire pour gérer ça? Les médicaments vont-tu avoir des impacts sur, tu sais, des effets secondaires? Puis ce qui a été long dans mon cas, c'est de trouver la bonne médication.
Ah, mais ça, c'est, je pense que c'est ça le plus long, pour vrai. Pour la majorité des personnes qui prennent la médication, là, genre, qu'on a dans l'épisode des troubles d'anxiété, de la dépression, on en avait parlé, puis... Pour vrai, c'était là. Il y en a qui ça a pris 3-4 ans, me semble, avant d'avoir la bonne médication qui. Et le bon médication et le bon dosage aussi. Parce que ça peut être la bonne médication, mais le dosage doit changer. Puis parfois, il faut que tu changes ton dosage aussi, dépendamment.
De ce que tu vis, puis de la période de ta vie où est-ce que tu es rendu.
Ouais.
Je vais donner un exemple. Le premier
c'est bien avec tes hormones aussi. Là, fait qu'à un moment donné, si mettant en ménopause, il va peut-être falloir que tu en prennes plus ou moins aussi, que tu changes de médication, peut-être. Fait.
Je vais te donner un exemple. Le premier médicament que j'ai essayé, là. Je tremblais tellement, là, j'étais pas capable de tenir une fourchette quand je mangeais. Fait que là, c'est comme, oui, ça m'aide sur le plan psychologique, mais ça a tellement d'autres impacts sur ma vie. Fait que là, OK, on essaye ça, ça marche pas, on essaye ça, ça marche pas. Ah, ben ça, ça marche, mais ça a d'autres impacts. Fait que c'est vraiment une longue bataille, là.
Ouais.
Puis toi, Zelda, ça tue?
Ben, je pense pour l'antidépresseur, j'ai quand même eu de la chance, là. J'ai eu un antidépresseur, puis j'ai toujours gardé le même. Mais au début, on m'a donné un antipsychotique, puis là, j'ai pris, je sais pas combien de livres, là, 60 livres, okay, j'en sais rien. Puis ça, je trouvais ça problématique parce que je suis arrivée aussi avec des problématiques de troubles du comportement alimentaire.
Ouais, des complexes, puis tout, car, ouais.
Mais en fait, je les avais déjà avant la médication, mais là, j'ai pris du poids. Puis ça m'a dérangée parce que je me suis dit, ben, tu prends pas en considération cet autre diagnostic dans ma vie. Parce que là, on te dit, ben, pour que tu sois en bonne santé mentale, il faut que tu prennes du poids. Oui, mais j'ai déjà des troubles du comportement alimentaire. Donc, ça ne va pas améliorer ma condition. Ça va comme peut-être améliorer le trouble bipolaire.
Mais ça va augmenter.
Mais ça va, en tout cas, y a une hiérarchisation en psychiatrie des troubles aussi. Là. Puis, on dirait que... Il y a des idées de oh, ben, si tu veux être en bonne santé mentale, il va falloir que tu prennes du poids. Mais.
Pas forcément.
Ouais, il y a trop de.
Mais parce que ça peut te rejouer, puis après, ça peut te retravailler autre chose, puis finalement, ben, ça va te créer un problème par la suite. Fait qu'au final, c'est pas mieux.
C'est un cercle vicieux.
Mais en fait, on dit que les effets secondaires sont. C'est rien par rapport à ce que t'as là. Puis c'est vraiment pas pris en considération, là.
Mais toi, ton diagnostic, ça a pris combien de temps? Mettons le départ de quand t'as fait la demande, que t'as dit « Ah, j'ai un problème, faut que j'aille consulter » à quand t'as reçu ta...
Ben, ça, c'était pas long, mais... Ben, en fait, c'est parce que la question... Je sais pas. En France, je suis arrivée avec des problématiques, mais je ne savais pas qu'est-ce que j'avais. Pareil, okay. On m'a dit crise d'adolescence, machin. Fait que si je pars de là, ça a pris 10-12 ans
okay.
avant que j'aie mon diagnostic. Mais si je pars de... J'arrive au Québec, puis là, je dis « Ah, oh, ben j'ai un problème, ça a pris quelques mois, tu sais. »
Fait que ça a été vite ici.
Mm-hmm. Ça a été vite ici.
OK. OK, ben cool.
Oui,
puis,
cool.
T'as, c'est quoi, t'as été dans un public, là?
Non, j'étais à l'université, à la clinique.
OK, OK, puis t'en, ouais. OK, ils t'ont
ouais.
fait ça?
Ouais, ouais.
Oh, nice! Ouais. Puis je sais que, en tout cas, je le disais, mais il y a des psychologues ici à l'université, c'est vraiment pas cher pour des psychologues, puis... Il y en a 4-5, je pense. Fait qu'il y a quand même une liste d'attente, là, mais mm-hmm. Une fois que tu es dedans, là, j'ai des amis qui l'ont pris, puis ça les a vraiment beaucoup aidés. Fait à prendre en considération là, pour ceux qui sont à l'écoute. Là, puis, du coup, je savais pas qu'ils faisaient les tests de ça. Je pensais que c'était très.
Ben, comment ça s'est passé? C'est que je suis arrivée, puis j'étais vraiment en détresse. Là. En fait, je savais que je pourrais pas continuer mes études si je faisais rien. Puis là, j'étais comme, OK, c'est le moment, il faut que je fasse quelque chose, ça va pas. En fait, j'ai rencontré un super infirmier. Puis là, on m'a donné une médication en attendant que je vois la médecin. Puis là, je suis rentrée dans la boucle médecin, psychiatre. J'ai eu mon diagnostic. On m'a donné d'autres médicaments. Puis okay. j'ai toujours un suivi aujourd'hui.
C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que le plus dur dans le système de santé québécois, c'est d'avoir le pied dans la porte.
Ouais,
quand j'ai eu ma première situation de détresse, là, je me suis retrouvée dans une situation où ça n'allait vraiment pas. J'ai appelé au CLSC, j'ai dit « Écoute, là, ça ne marche pas ». Elle dit « Ben, il y a 3 à 6 mois d'attente ». Je suis comme « OK, mais non, c'est là que j'ai besoin, ouais, c'est pas dans 6 mois ». Elle dit « Ben, ton autre option, c'est de te présenter à l'urgence ». Puis là, ouais. À cet âge-là, je voulais pas, je voulais rien savoir de ça. Puis finalement, c'est là que je me suis retrouvée pareil. Parce que...
après coup.
Mais c'est ça. C'est une fois que t'as le pied dans la porte, vraiment, ça va vite. Tu sais, je veux dire, tu vois un médecin, oui. Tu vois un psychiatre, oui. Puis des fois, t'en vois plusieurs dépendamment de la situation, puis tu vois des psychologues. Mais ce qui est vraiment dur, c'est d'avoir accès à ça.
C'est comme si le système de santé te croyait juste quand t'étais sur le bord de péter... Fret.
Ouais, puis les urgences, hein, le nombre de personnes que j'ai entendu dire à quel point c'est traumatisant, puis
ouais, ouais.
qui fuient du coup le système de santé à cause d'être interné en psychiatrie, là, c'était ouais. déshumanisé. Là,
je peux t'en parler longtemps.
J'imagine.
Ok, mais longtemps après l'autre pause d'après. Mais on en a un petit peu, mais je sais pas pour. C'est quoi que tu veux dire par dans les salles d'attente que t'aimes?
C'est qu'une fois que... Mettons, prenons l'exemple de Bowen. C'est là qu'il y a la psychiatrie à Sherbrooke pour les adultes. Mettons, comment ça fonctionne, là, c'est que t'arrives à une urgence, t'es évalué par le triage, puis là, ils vont soit te faire voir un médecin en santé physique ou un médecin en santé mentale. Puis si tu vois le médecin en santé physique puis que lui juge que t'as besoin, il va te transférer dans le département de la psychiatrie. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui vivent beaucoup, beaucoup de choses quand ils se retrouvent à l'urgence. Parce que tu peux pas être là plus que 3 jours. Fait que quand tu arrives du côté psychiatrique de l'urgence, ça bouge pas mal.
T'as pas le droit d'être plus que 3 jours là-bas?
Non.
Ils te mettent
faut
dehors
faut non, ils te mettent pas dehors, mais il okay. faut qu'ils te trouvent un endroit comme sur l'étage ou okay. dans une aile différente. Mais après, tu sais, pendant que tu es là, il y a des gens qui vivent toutes sortes de choses. Là. C'est pas juste des bipolaires, c'est pas juste... Il y a des schizophrènes. Fait que des fois, ça brasse pas mal. Mais moi, si j'ai quelque chose à vous dire, si vous êtes rendu là, ça vaut la peine. Parce ouais. je sais que quand j'ai fait ma tentative de suicide, j'étais rendu là puis j'ai pas voulu y aller. Ben peut-être que je m'en serais sauvé sans passer à travers ces épisodes-là.
Ouais. OK. Ouais. À réfléchir.
Ouais.
Ben, il faut réfléchir à mettre en marche, en fait. C'est une question de réflexion. Ben, il nous reste un peu de temps, mais du coup, vous, bipolaire, genre, est-ce que vous êtes peut-être même pas dans le même degré non plus, mais c'est quoi que ça vous fait en tant que tel?
Ben, je pense que ça diffère de toute personne. Moi, j'ai un triple diagnostic, fait que c'est sûr que chaque diagnostic s'influence okay. Les uns entre les autres, mais. C'est ça, je te parlais de cyclothymie tout à l'heure, mais il y a la cyclothymie, il y a trouble bipolaire de type 1 puis type 2. Moi, je suis type 2, puis je sais pas si je peux en dire plus, mais je te laisserai parler.
Ben, tu vois, moi, je me souviens même pas de quel type que je suis, là, mais je suis comme dans la catégorie pas extrême, mettons. Fait que ça, oui, ça a un impact. Ouais, I'm facing, c'est deux. c'est que ça a un impact sur ma vie. Tu sais, je veux dire, je peux être une période où ça va très, très bien, puis là, ça va trop bien. Fait que là, j'arrête de dormir, je pars 56 000 projets, puis tu sais, j'ai de l'énergie à en revendre. Mais ce qui arrive, le revers de la médaille de ça, c'est que quand ça l'arrête, tu crashes. Puis quand tu crashes, ben là, tu manges plus parce que t'es trop fatigué, tu te lèves plus de ton lit. Fait que tu sais, oui, cette période-là, pour la plupart des gens à qui j'ai parlé qui avaient la même maladie que moi, c'est le fun d'être dans un high. Parce que là, t'as plein d'énergie, ça, tout va super bien, mais quand tu réalises les impacts que ça a, ben premièrement, il y en a qui ont des problèmes de jeu compulsif. Ouais. Quand ils tombent en high, ils se mettent à dépenser et ils ne réfléchissent pas. Les achats compulsifs aussi. Fait que, tu sais, puis même des comportements à caractère sexuel extrêmes. Tu sais, il y en a des gens qui vont tomber dans des pratiques qu'ils n'auraient pas faites normalement. Fait que là, après ça, quand tu te réveilles puis tu dis « crime, j'ai fait toute cette affaire-là », là, tu t'en veux. Puis la culpabilité est énorme dans cette maladie-là. Puis là, après ça, ben, t'as tous les effets secondaires au niveau de la dépression qui viennent avec. Fait que je sais pas si c'est comme ça que tu le vis.
Retour de médaille, ouais.
Ouais, ben, mais c'est exactement ce que tu décris. Puis pour le high, je rajouterais que il y a la peur aussi parce que tu le sais que tu vas redescendre.
Ouais.
Fait que comme t'es bien, mais en même temps, tu te dis « My God, c'est quand est-ce que je vais tomber, en fait, puis que ça va être horrible. »
Et on répondra au contest après la pause. Hey, de retour. Pour vous jouer de bon tour. Donc, vous avez parlé de quand est-ce, la peur de que ça arrive le down. Fait que je vais poser la question. Est-ce que vous avez un cycle en particulier que vous avez remarqué peut-être? Et là, je viens avec les médicaments, je sais pas à quel point ça vous calme ou que le cycle est pas là ou ça, mais est-ce que vous avez remarqué un cycle ou c'est plus des triggers?
C'est sûr que la bipolarité, c'est très cyclique. Là.
Ouais, c'est, mais...
C'est comme tu vas bien, trop bien, tu vas pas bien.
Est-ce que vous avez des périodes neutres?
Est-ce que vous avez
demandé? Oui, oui.
J'ai l'impression que type 1, il n'y a pas vraiment de période neutre.
Non, je suis de cette impression-là aussi. Là, dans le fond, il y a deux catégories de high qu'on appelle. Tu as les hypomanies et tu as les manies. La manie en tant que telle, littéralement, là, tu te prends pour Dieu. Là. Tu peux tout faire, il n'y a rien qui t'arrête.
Ah, ça me parle.
Puis t'as l'hypomanie, puis dans les deux cas, il faut que ça dure au moins une semaine.
Okay.
L'hypomanie, c'est plus gérable. Je vais le dire comme ça, là, par absence de meilleurs mots. Là. Tu sais, c'est comme, oui, tu vas faire des comportements excessifs, puis tout ça, puis oui, tu vas avoir beaucoup d'énergie, mais il y a comme une coche vraiment en dessous. Puis ce cycle-là, en tout cas pour moi, c'est à peu près une semaine de manie hypomanie plutôt, pour quelques semaines à quelques mois de dépression.
OK.
Puis après ça, ça recommence à monter. Fait que c'est vraiment comme une montagne russe. Tu montes, tu montes, tu montes, puis là, ça lâche.
Très longtemps en descente, puis là, tu remontes un petit high, puis ça.
Exactement.
Okay. Parce que je sais qu'il y en a qui c'est très égal, genre high. Il y en a qui c'est vraiment longtemps de high, vraiment longtemps de low. Mais toi, t'as vraiment une affaire de... Oui! Ah!
Ouais, okay. C'est ça. Okay.
Moi, les périodes sont pas du tout prévisibles.
OK.
C'est pour ça que je disais que ça me faisait peur parce que je ne sais pas combien de temps le high va durer, je ne sais pas combien de temps la dépression va durer non plus. Mais on dirait qu'avec les médicaments, ça, c'est sûr que ça calme un peu, mais des fois, je trouve que ça calme trop et que tu ne ressens plus rien.
Ouais.
Fait que ça, c'est problématique. Fait que là, ça demande des ajustements aussi.
Ouais. Ça, j'avais un ami aussi qui avait des amis, j'ai tellement d'amis. Non, c'est une connaissance, c'est un ami. Qui avait vraiment un truc d'hypersensibilité, mais genre vraiment extrême. Puis, et du coup, lui, il prenait des médications, puis maintenant, il ressent plus rien. Puis il était comme, ça fait 2 ans qu'il est dessus, puis il sent plus rien. Puis comme, j'arrive pas à tomber amoureux, j'arrive plus à avoir de désir.
T'as plus d'émotions.
Mais c'est zéro. Mais moi, je préfère vivre avec l'hypersensibilité. Moi, je ne pourrais pas vivre sans pas d'émotions. Parce que je suis capable de me bloquer moi-même. Je suis capable d'avoir des périodes où je bloque mes émotions, puis I don't give a shit about the people. Mais comme, ça me fait trop mal, puis j'ai trop besoin d'être empathique. Ouais. Ça fait trop partie de moi, mes émotions. Mais je sais qu'il y en a qui préfèrent vraiment pas parce que moi, si je suis hypersensible, je dois pas être très low. Je dois pas être élevé dans le, en tout cas dans l'échelle de dangerosité pour moi-même. Parce que mes low, quand je suis vraiment, mettons, anxieux, Mais je vais m'occuper, je vais faire autre chose, puis j'ai des trucs pour m'occuper. Moi, ça fonctionne en tout cas, là, heureusement. Mais sinon, mettons que j'ai avoir un... Mettons un don de tristesse, mettons. Là, ou de la colère. Là, mais mettons, la colère, ça peut être genre enragé de... Genre, justement, je vais faire du sport après pour évacuer. Mm. Mais mettons de la tristesse, de la mélancolie, là, rester au lit, puis tout. Mais je vais jamais avoir... j'aurais pas de dépression, par exemple. J'aurais pas envie de me tuer ou de passer à l'acte ou d'aller fumer ou comme ou de boire de l'alcool. Genre, je vais juste être. J'ai envie de rien faire dans mon lit.
Mais ça fait partie de la dépression.
Ouais, c'est ça. C'est un type de dépression, mais je suis pas. Je suis élevé parce que, en fait, ma tristesse va vers la dépression directement, en fait. Mais je suis pas élevé dans ma dépression. En tout cas, pas pour.
Mais ça m'a jamais atteint. Dépendamment pour des épisodes, ça peut être plus ou moins sérieux. Si tu as eu un high de 3 semaines, ben c'est sûr que le down, il va être vraiment plus creux.
Puis ton monde va avoir l'air plus creux aussi par rapport à ton high.
Oui. Okay. Ah, puis si t'as de l'anxiété aussi qui se mélange au down. Mais en fait, je sais pas si la dépression en soi est tellement dangereuse ou si c'est quand l'anxiété rentre dedans. En tout cas, mais je pense que ça dépend de,
ça dépend de tout le monde.
C'est vrai que j'ai jamais tant parlé des gros symptômes d'anxiété d'autres personnes, mais moi, l'anxiété, c'est ce qui me fait capoter, puis que je me dis, oh, mais là, je suis plus capable. Ouais. Je vois plus qu'est-ce qui se passe après, puis
on se fait des scénarios catastrophes dans ce temps-là. Hein?
Dans l'épisode, là, on en parlait avec les filles qui étaient là, puis j'étais comme, pour vrai, là, moi, je peux être en train de rouler et faire genre, imagine, il y a un bus qui te fonce dedans. Genre, puis ça a fuck all rapport, puis je suis pas trop stressé, juste, je suis tout le temps dans le peut-être, puis tout le temps dans le fait de préparer mes actions. Je veux tout le temps être prêt à tout dans la vie.
Toujours avoir 2 coups d'avance, 3 coups d'avance.
Tout le temps. Genre, je suis tout le temps en partie d'échec contre la vie.
Mais ça m'amène à un autre point. T'sais, oui, il y a les médicaments qui aident, mais il y a la psychothérapie qui fait une grosse différence. Ouais. Parce que oui, il faut que tu aies une bonne hygiène de vie. Oui, tu as lavé tout ça. Là, mais je veux dire, il faut que tu fasses du sport, tu manges bien, tu aies une routine. Ça, là, ça a changé ma vie, avoir une routine.
Ah, ben c'est sûr.
Parce que comme tu dis, tu veux tout le temps être en contrôle dans la vie. Puis je pense que c'est généralisé. Ben, là.
J'aime pas ça être trop en contrôle. J'aime ça avoir un peu de contrôle, mais j'aime ça me surprendre par la vie aussi. Moi, je suis très ambigu. En fait, moi je suis une nuance de geek de la vie. Là, genre, je suis vraiment jamais clair. Mais c'est un truc que vous allez apprendre à me connaître. Là, mais je vais dire une chose, je vais dire le contraire après. Là, mais c'est ça.
Mais tu sais, en ayant un minimum de structure, tu sais, oui, ça te permet d'avoir des émotions fortes, pareil, tu sais, tomber amoureux, etc. À moins que tu sois tellement blasé sur la médication que tu ressens plus rien. Là. Ça, c'est une peur que beaucoup d'entre nous.
Mais il y en a beaucoup, là, en fait, qui ne veulent pas aller consulter parce qu'ils ont peur des médications, parce qu'ils ne veulent pas prendre de poids, ils ne veulent pas perdre les sentiments, puis tout.
Mais ça n'arrive pas. Tu sais, je veux dire, oui, il y a une prise de poids associée aux médicaments pour la dépression puis la maladie
bipolaire. Ou une perte de poids aussi.
Ou une perte de poids, effectivement. On va dire un débalancement au niveau du poids. Mais personnellement, quand on a trouvé la bonne médication, là, puis que. On l'a trouvé la bonne façon parce qu'il n'y a pas juste des pilules que tu peux prendre. Là. Tu vois, maintenant, moi, je suis sur une injection. Fait que je me fais piquer une fois par mois, puis j'ai la paix après, là, j'y pense plus. J'ai plus besoin de me demander.
comment? Intéressant!
Mais j'ai plus besoin de me demander. Je les ai-tu pris? Je les ai-tu pas pris? Je les ai-tu oubliés? Je sors, faut que je les amène.
Ou genre, là, tu sais que t'es oublié, t'es comme, OK, là, comment je vais faire? Parce que je vois un gars, puis lui aussi, il a des affaires pour la dépression, puis pour s'aider à se concentrer. Là. Puis genre, lui, il les a oubliés à un moment donné, puis il m'a pas fait. Oh mon Dieu, comment ma journée va se passer, je sais pas. Là j'ai pas. Là, l'anxiété embarque, puis là, c'est là que ça chie, genre.
Ouais, parce que t'as les symptômes de sevrage.
Ouais, c'est ça.
Puis moi, si j'oublie de prendre mes médicaments, bah, c'est sûr que toute la journée, je vais être. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était comme j'ai l'impression de tomber dans le vide un peu, genre, tout est flou. Fait que ça, c'est un autre problème.
Puis. Par rapport au cycle, toi, t'avais dit que c'était, Victoria, par rapport à l'endométriose, t'avais dit que c'était environ 10 jours. Ça a tout été le même ou ça s'est stabilisé? Puis t'as-tu des médocs qui t'ont prescrit pour t'aider à régulariser peut-être tes règles ou genre...
Je pourrais en parler pendant des heures.
Mais j'en doute bien.
alors, moi, j'ai vraiment des douleurs très, très fortes pendant mes règles, donc ça, je l'ai dit. Et environ 10-15 jours après mes règles, donc en général, c'est pendant ma période d'ovulation.
En gros, t'as une semaine de douleur de règles, une semaine d'endométriose, une semaine de...
Okay, voilà, ouais, j'ai... Moi, j'ai je me sens très chanceuse par rapport à d'autres filles qui, elles, ont des douleurs tout le temps. Des grosses crises tout le temps. Moi, j'ai des grosses crises vraiment quand je suis en période d'ovulation et que je sens que tout mon corps est en train de travailler. Et c'est pour ça que pour moi, ça a été très difficile d'être diagnostiquée parce que les médecins me disaient, bah, c'est juste, vous avez une ovulation trop forte, on n'y peut rien, c'est comme ça. Bah non, c'est pas comme ça.
C'est pas
ça. Et j'ai commencé à faire j'ai des grosses crises pendant ce moment-là. Mais après, il y a des fois où ça va être en dehors de ce cycle-là, peu importe. Par exemple, demain, je vais être en cours, mais je vais avoir d'un coup super mal au ventre. Et là, je me dis, mince, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai toujours sur moi un médicament ou quelque chose, peu importe, pour calmer la douleur jusqu'à ce que je rentre chez moi et que là...
Genre un Tylenol, genre.
Jusqu'à ce que je rentre chez moi, que je prenne ma douche, que je me concentre sur ma douleur, sur comment je vais gérer tout ça. Et ensuite, j'attends.
Mais du coup, j'ai une question. Si, mettons, t'as une grosse crise puis ça dure pendant plusieurs jours...
Ouais.
Est-ce que les profs sont compatissants par rapport à ça puis ils comprennent ou la matière perdue?
Je sais pas parce que depuis que je suis arrivée, la plupart du temps quand j'ai eu des grosses crises, en général j'arrivais quand même à rentrer chez moi et tout ça. Donc sur ça, je pense que ça va. Par contre en France, les profs, on n'a pas de proximité avec les profs.
Okay.
Donc, je pouvais avoir une grosse crise, j'étais pas obligée d'aller en cours, donc j'allais pas en cours. Ou alors, j'avais mes TD, donc là, on est un peu plus proche des professeurs, tout ça. Mais il y avait des fois où je pouvais pas aller en cours. Je pouvais pas aller en TD, je pouvais pas rendre mes devoirs parce que j'étais pas bien, j'avais une énorme crise, j'étais aux urgences la veille. Et la plupart comprenaient, d'autres comprenaient un peu moins. Surtout qu'en général, j'allais à la maternité et donc ils pensaient nécessairement qu'il m'était arrivé quelque chose, que j'avais eu un bébé ou peu importe. On m'a vraiment posé la question, est-ce que vous avez avorté ?
Oh mon Dieu !
Ça c'était terrible. Mais non, après ça va, les professeurs sont assez compatissants par rapport à ça.
Ok, parfait. Ouais. Puis maintenant si vous avez des crises pendant l'école, mais ça a dû arriver avant la médication, est-ce que les profs étaient compatissants par rapport à comprenaient les... Non, clairement pas. En fait, mais non.
N-O-N.
Moi, je me suis répondu moi-même.
Mais... Je pense que c'est plus dur pour être compatissant. Enfin, plus dur, non. Je reprends. C'est quelque chose que, comme on disait tout à l'heure, ils ne voient pas et donc du coup, ils cherchent pas à comprendre, en fait. Je pense, non?
Je pense que ça dépend de l'être humain que
tu as
aussi, puis de comment tu l'apportes aussi. Tu sais, moi, ça m'est pas arrivé à l'université parce que je viens juste de commencer,
mm-hmm.
mais ça m'est arrivé au cégep. J'ai été hospitalisée parce que là, ça marchait vraiment pas. J'ai manqué, je pense, c'est un mois d'école. Tu sais, ils m'ont dit, tu peux avoir un incomplet permanent, puis tu reprendras la session prochaine.
Fait que,
tu sais, c'est pas encore. En tout cas, de ce que j'ai vécu, c'était pas encore assez ouvert d'esprit pour dire.
Ok, tiens, les cours, tiens, on va s'arranger pour l'examen. Genre. Okay, ouais.
Mais, tu sais, je pense qu'on fait un pas dans la bonne direction parce que quand je me suis inscrite au prêts et bourses puis à l'université, dans la section des mesures adaptatives, il y a une section pour les troubles de santé mentaux. Fait que, tu sais, je me suis inscrite, j'ai fait remplir le document, j'ai pas eu de réponse encore, mais, tu sais, au moins... Il y a de l'ouverture. Tu sais, avant, je remonte, il y a 5 à 10 ans, là, tu disais que tu étais bipolaire, puis le monde associait, même encore, il y en a qui le font, mais c'est de l'ignorance parce qu'ils sont pas au courant. Mais il y en a qui vont dire, ah, t'es folle.
Mm. Okay.
Il y en a tellement qui font des blagues, qui disent, elle est hystérique, là, elle doit être bipolaire.
Ouais.
Et est-ce que, du coup, pour vous.
Est-ce que on peut poser la question après l'autre pause?
Oui.
Je sais, il y a tellement de pauses. Je sais, vous aussi, vous êtes genre, non, je voulais savoir la question. Ben, vous saurez après la pause. On s'excuse. On se retrouve. Donc, Victoria, tu avais une question avant la pause.
Oui. Du coup, est-ce que, par exemple, quand vous passez un examen, vous avez le droit à avoir plus de temps ou pas?
Comme je te dis, moi, je suis dans le processus, fait que je ne peux pas particulièrement répondre, mais je sais qu'il y a des mesures adaptatives qui existent. Mm-hmm. Je me doute que si je pars pendant 3-4 semaines, ils vont essayer de s'organiser puis de m'accommoder. Mais peut-être que tu as une réponse à ça, Zelda?
Ouais. Non, parce que je n'ai pas d'examen, dans le milieu académique, moi, je trouve que c'est vraiment problématique là, d'avoir des... En plus, C'est bête parce que on le sait là que les étudiants puis les étudiantes ont tellement de problèmes de santé mentale, des problèmes d'anxiété,
ouais.
Mais c'est pas pris en compte. Puis il y a, c'est tellement tabou, tu sais, comme moi j'ai tellement forcé pour dire hey j'ai des problèmes de santé mentale, fait que ça demande telle adaptation, puis ça a jamais été pris en compte. Puis
je pense qu'aussi il y a une affaire aussi de ils prennent pas en compte que oui. Tu peux avoir des crises en cours ou pendant l'examen, mais de ne pas en avoir à la maison qui fait que ça t'empêche d'étudier, que ça t'empêche de prendre des cours aussi.
Ouais, puis tu sais, quand je faisais des crises d'anxiété, ben, mon seul moyen c'était de prendre une médication, mais qui me faisait genre dormir. Mm-hmm. Fait que là, il faut que je rentre chez moi, mais c'est comme tu sais, il y a tellement une pression de performance aussi dans le milieu académique que là, on te regarde genre, mais tu fais rien en fait. Bah, excuse-moi, oui, je suis malade, donc non, je fais rien si tu veux, mais c'est comme ça que...
Genre, t'as le droit, là, t'es malade, t'as le droit de rien faire.
Mais tu sais, ça revient au préjugé. Tu dirais pas à quelqu'un qui a un trouble de la vision,
ben, Chris,
ben tu fais rien parce
plus.
Que tu vois rien, tu sais.
Force plus.
C'est ça, mais l'aspect non intangible de la maladie, puis c'est la même chose pour toi, j'ai l'impression, Victoria... cet aspect-là qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas voir, les gens ont beaucoup de misère à comprendre ça.
Ben, tu vois, les TDAH puis les TDA, eux, ils ont des temps supplémentaires, ils ont 15 minutes de plus parce que ça joue sur la concentration.
Ouais.
OK.
Fait que pour ça, eux, ça a été... Puis je sais pas si en France, ils l'ont. Ouais, OK.
Ouais,
c'est mais,
tiers-temps.
Ouais, c'est ça. Fait que nous aussi, on l'a. Ça fait quand même longtemps. Mais c'est sûr que je pense que faudrait qu'on développe ça pour... d'autres. Je veux dire, ça veut pas dire qu'il faut qu'il l'aille tout le temps, mais si une personne a une crise pendant genre la semaine avant l'examen, mais crise...
Mais ça, c'est le minimum qui peut être fait. Là,
ouais,
c'est parce que c'est plus une question de compréhension que les gens veulent pas comprendre, je trouve. Que, tu sais, il y a tellement cette
mais
idée
de
performance dans l'académique que c'est pas possible d'imaginer autre chose. Puis moi, j'avais fait le choix, tu sais, comme je rentre chez moi, je ne travaille pas. La fin de semaine, je ne viens pas. Mais dans l'académique, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Là, il faut que tu viennes tout le temps, il faut que tu prouves que tu travailles tout le temps, il faut que tu sois le dernier parti pour prouver. Mais c'est tellement nocif.
Ouais.
OK. Puis, mais du coup, ben, on est déjà dans les répercussions. Peut-être en parler un peu avant la petite pause, puis après, on parlera de comment se soigner hors médication. Par rapport à peut-être, ou des préjugés, là, c'est pas l'endométriose. T'as-tu des préjugés hors les médecins? Genre, mettons des familles, des amis, des gars, des filles, des personnes.
Moi, j'ai eu de la chance parce que j'étais très bien entourée. Ces dernières années, j'ai été extrêmement bien entourée. Après, c'est vrai que quand je commençais à avoir mes crises, surtout au lycée, y a beaucoup de gens qui me regardaient, qui me disaient « Non, mais qu'est-ce que... Tu fais du cinéma ?» Alors que j'étais vraiment en train de souffrir. J'étais vraiment pas bien. Et quand j'allais pas à l'école, au lycée, pendant 3 jours, parce que j'avais mes règles et parce que j'avais très très mal... quand je leur disais bah, voilà, je me sentais pas bien, tout ça, ils me disaient ah oui, t'as eu tes règles, t'as eu mal au ventre et c'est tout quoi.
Puis genre, est-ce que, si mettons, tu demandais à des personnes de t'envoyer leurs notes, est-ce qu'ils faisaient ben là, mais t'as juste à être là, t'avais juste.
Non, parce qu'en général, je demandais pas forcément à des gens qui. Où je savais qu'ils allaient un peu se moquer de moi par rapport à ça. Je demandais plutôt à mes amis.
Sur ça, j'ai
pas eu vraiment de soucis. Mais je pense que ce qui est important aussi, je pense que c'est valable aussi pour vous, c'est qu'il faut être bien entouré.
Ah ben c'est sûr.
L'entourage, c'est hyper important. Bon, moi je sais que, et tu parlais un peu de ça, de l'acceptation de la maladie.
Oui.
Et je trouve que c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez, c'est super important. Moi j'ai mis du temps à accepter, quand on a commencé à me parler de l'endométriose, tout ça, que je l'avais potentiellement, et quand on m'a posé le diagnostic, j'ai mis énormément de temps à accepter,
puis il y a travaillé son horaire puis sa vie pour que ça fonctionne avec aussi. Hein, parce que ça, pour certains, il y en a que ça change pas, mais il y en a que ça peut changer. Toi, c'est clair que ça... Julie, c'est clair que ça a dû changer. Puis en plus, t'as d'autres affaires à côté qui fait que comme il y a autre chose.
Mais oui, effectivement, ouais. Ça a eu un gros impact parce que je vivais tout le temps dans le moment présent, puis je le fais encore, là, mais... Tu sais, je me souciais très peu des conséquences à long terme ou même à court et moyen terme. Puis là, quand tu tombes dans la portion où t'es comme, OK, là, j'ai fait ça, ça, ça. Je me suis brouillée avec certaines personnes parce que j'ai dit des choses que...
Ça me tentait, genre, ouais.
Puis, ben, ça devient dur à gérer parce que t'as de la culpabilité, t'as de la frustration aussi. Tu te dis, pourquoi j'ai fait ça? T'sais, pourquoi je suis allée dépenser cet argent-là que j'aurais pu mettre ailleurs? T'sais?
T'avais-tu l'impression, en fait, de pas avoir un contrôle sur ton corps?
Ben non, justement. Je me sentais très en contrôle parce que je vivais toutes les émotions que j'avais à, t'sais, à 150 %. Okay. Mais c'est le après, tu sais, quand quelqu'un me disait « Crème, tu parles vite, Julie », puis là, t'es comme « Oh, là, ça commence, tu sais. » Puis ça a pris du temps avant que je vois les signes que je tombais en hypomanie, là. Ça a été très difficile à gérer parce que souvent, le monde, il me le disait, j'avais les deux pieds dedans. Mm. Puis je me voyais pas, tu sais, monter la côte avant d'arriver au sommet. Fait que là, il était comme trop tard.
Puis, OK, t'étais comme dans ta propre perception, t'étais... Mais c'est parce que t'étais tellement dans le moment présent, en fait, que tu voyais pas.
C'est ça. Puis, tu sais, une fois que c'est parti, la lipomanie, là, tu peux pas faire grand-chose. Oui, il existe des médications que tu peux prendre, mais ça vient jamais gérer la situation. T'sais, c'est tout le temps comme trop peu, trop tard. Fait que, tu sais, oui, ça a eu des répercussions, tu sais, financières. Tu sais, je veux dire, je me suis endettée dans cette période-là de ma vie où est-ce que, tu sais, j'ai commencé le cégep, puis tout ça, puis parce que je gérais pas bien mes finances. Puis pourquoi? Parce que je m'en rendais pas compte.
Est-ce que tu as encore des répercussions actuelles par rapport à ça?
Oui, okay. Oui. J'ai une belle consolidation de dette que je paye tranquillement, pas vite, à la maison. Mais tu sais, il y a des répercussions, tu sais, sociales, il y a des répercussions financières, il y a des répercussions sur les études, tu sais. Ça a un impact sur toutes les sphères de ta vie.
Puis tes enfants, tu les as pas fait tout seul, j'imagine?
Non.
Mais ça aurait pu.
Ouais. Mon mari a trouvé ça dur au début parce que, tu sais, dans les premières épisodes de notre relation, j'étais comme, va-t'en, j'ai pas besoin de toi. Puis là, je l'avais averti, j'ai dit, tu vois, quand je viens malade, j'essaie de repousser tout le monde qui est autour de moi. Puis je le faisais même pas consciemment, c'était juste, tu sais, comme, allez-vous-en, je veux me gérer tout seul. Puis au début, tu sais, il aurait bien pu dire, prendre ses affaires, puis dire, OK, moi, je suis out the door, là. Tu sais, ça me tente pas de gérer ça. Mais tu sais, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un, comme tu disais, Victoria, d'être bien entourée. Ça a fait une énorme différence. Puis tu sais, on a traversé ça, veut pas, ensemble. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble.
Okay.
Puis tu sais, j'ai mon diagnostic depuis 10-11 ans. Fait que tu sais, il était dans le début, là. Tu sais, j'avais même pas accepté ma maladie. Ouais,
tu commençais, encore. En fait. Tu commençais à faire, OK, oui, effectivement, je l'ai, je suis conscient. Je t'avertis que j'ai quelque chose. Ouais.
Puis tu sais, il y a aussi un point qu'on n'a pas mentionné, c'est, veux-tu vraiment la prendre, ta médication? Ça, c'est un challenge que j'ai eu beaucoup parce que, tu sais, le high me manquait.
Ah, ben, t'es bien là-dedans.
Ben, c'est ça, t'es super bien. Fait que là, OK, ben, je prendrai pas ma médication. Puis là.
Mais je vais la prendre juste pour le down. Mais ça marche pas de même, là. Mais...
Non, c'est ça. Fait que ça aussi, c'est un chemin, là. Puis je sais que c'est le même pour plusieurs maladies. Tu sais, si t'as une maladie cardiaque, tu peux pas juste dire je vais prendre des pilules quand je me sens que je vais faire une crise cardiaque, là. Fait que c'est dur à accepter.
Tu vois, moi, quand j'ai anxiété, je prends j'ai des petits calmants, puis c'est pas. C'est genre. C'est, j'ai acheté ça, c'est pas en pharmacie, c'est une compagnie, puis j'ai trouvé ça à un moment donné par l'entremise de quelqu'un qui en prenait. Puis c'est. Moi, ça marche en tout cas. Puis c'est biologique, c'est juste un calmant, en fait, normal. Puis moi, ça permet vraiment, en gros, de relaxer mon cerveau. Puis je peux. Ça dure 24 heures. Moi, j'en prends un le matin, mettons. Si je fiche, genre, mettons, je suis en période d'examen ou je sens que j'ai un examen ou que je suis stressé pour l'examen, je vais en prendre un, ça va me relaxer après 1 heure. Puis ça, je peux conduire après, ça m'empêche de rien faire, je ressens mes sentiments aussi. En tout cas, j'ai vraiment gros de chance. Puis il est vraiment pas fort, mais c'est juste assez pour que ça me calme et que je suis capable de prendre contrôle sur ça. Ça m'enlève pas ma petite voix, mais ça me permet de prendre contrôle sur la petite voix, en fait.
Mm-hmm.
Ça l'aminuit juste assez, en fait.
Je sais pas si t'es comme ça, Zelda, mais moi, avant de prendre ma médication de façon assidue, là, j'avais un hamster qui roulait dans mon cerveau, là, dans sa petite roue, puis il arrêtait jamais. Fait que, tu sais, la nuit, le jour, puis en particulier quand j'étais dans le high, c'était comme... Il faisait une course contre la montre, là. Fait que, tu sais...
C'est genre, c'est faire le plus d'affaires avant que tu t'abandonnes.
Exactement. Ouais, fait que, tu sais, je comprends ce que tu veux dire, tu sais, le calmant que tu prends, ça vient t'aider, mais, tu sais, quand t'as un diagnostic comme ça, oui, il y a des médicaments que tu peux prendre, tu sais, quand t'as une grosse crise, mais il faut pas minimiser l'impact de la médication à long terme, puis des bonnes habitudes de vie aussi, ça aussi, c'est important.
Non, mais ça, c'est je disais pas de pas prendre ça. Non, mais juste pour que les auditeurs comprennent, je disais pas de pas prendre ça. Moi, c'est clairement pas le même problème, fait que c'est pas la même affaire, mais dans le sens aussi que... Puis je vais on va en venir en fait après l'autre pause, mais parler, il y a d'autres manières en fait de gérer aussi clairement que la médication aide. Puis on avait parlé aussi sur l'autre épisode, là, je m'en souviens, sur l'anxiété. Je fais beaucoup de parallèles avec, parce que ça reste une maladie, l'anxiété, la dépression. Mais il y en avait qui prenaient, qui étaient sur le point d'arrêter, qui en prenaient de moins en moins souvent parce qu'ils commençaient à bien comprendre puis à bien avoir des ressources extérieures. Parce que pour eux, mettons, il y avait beaucoup d'effets secondaires avec les médicaments, mais c'est ça qui fonctionnait. Fait que parfois, quand t'es bloqué, mais t'es obligé. Mais eux, ça les avantage pas. Fait que ils essaient de trouver d'autres solutions. Puis certains, ça avance à tâtons, là, souvent. Là. Fait que...
Puis après, je pense aussi qu'il faut apprendre à se connaître.
Ah, ben oui. Ouais.
À partir du moment où on te dit, bon, écoute, tu as ça, ça passe par l'acceptation. Pour accepter, il faut que tu te connaisses, il faut que tu apprennes à vivre avec. Et pour vivre avec, eh bien, il faut que tu essayes de trouver des moyens pour solutionner un peu ce problème-là. Enfin, moi, je sais que... On en parlera après, mais je prends rien. Je prends pas de traitement. Parce qu'il y en a beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup.
Ouais, mais
on en parlera.
Il existe plus quand même plusieurs traitements qui, voilà. Mais il y en a, je sais qu'il demande, faut que tu ailles à l'hôpital à chaque semaine, genre, ou à chaque.
Ouais.
Mais en tout cas, c'est peut-être vieux cette affaire-là aussi. Ça fait longtemps, j'en ai pas entendu parler dans nos Patreons.
Moi, je sais que le seul traitement qui est possible, c'est les traitements hormonaux.
Ouais.
J'en ai essayé beaucoup et. Moi, c'est mon corps et c'est mon choix de ne pas mettre d'hormones dans mon corps. Je l'ai fait pendant très longtemps et je trouve personnellement que ce n'est pas bon. Et maintenant, je ne prends plus rien et j'essaye juste d'apprendre à vivre avec et de me connaître. Et je pense que ça, c'est valable pour toutes les maladies.
Ah ouais, et surtout dans la vie.
C'est ça.
Puis, fait que nous, on vous laisse sur cette question de. On vous pose la question à vous aussi. Vous, qu'est-ce que vous faites hors médication pour vous gérer? Hey! Donc, le petit dernier 15 minutes qui nous reste à jaser, on, comme annoncé, on a commencé un peu à parler de ça avec Victoria. Quoi faire autre que la médication? C'est quoi vos trucs? Qui veut commencer? Tu étais bien parti.
OK. Moi je sais que bon, je prends un médicament déjà pour essayer de voir de tâter le terrain, voir vraiment comment je me sens, tout ça. Mais en général, dès que j'ai une crise, j'aime bien être seule. Je ne veux personne autour de moi parce que ça m'apporte encore plus de stress et j'ai pas envie. Je prends une douche, je me détends. Et je fais des exercices de respiration. J'essaye de faire des exercices d'étirement parce que c'est une maladie physique et ça te prend à certaines parties du corps. Et j'attends que ça passe. Et en général, pendant les crises, je suis très fatiguée après. Et je dors après la crise, après avoir beaucoup pleuré.
Au moins, tu fais une bonne nuit après.
Ouais, c'est ça. Et sinon... Moi, je sais que ce qui m'a beaucoup aidée et ce qui m'aide encore aujourd'hui, ce que j'ai repris là depuis que je suis arrivée au Québec, c'est le sport.
Okay.
Le sport, c'est important et je pense que c'est important pour toutes les maladies. Si t'as mal, si t'es en colère, moi je sais que aussi j'ai fait du sport au moment où on m'a dit voilà, t'as de l'endométriose, tout ça, et j'étais en colère contre moi-même parce que je me disais mais c'est pas possible, je peux pas avoir ça, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et donc du coup, j'allais au sport. Et puis même, c'est bien aussi pour ta santé mentale, je trouve.
Changer d'air, juste.
Voilà, pour changer d'air, tout ça.
Tu mets un but, puis te concentrer sur un seul affaire.
C'est ça. Et puis, bon, après, moi, je suis un peu adepte aux huiles essentielles, produits à base de plantes, tout ça. Donc, j'essaye de faire avec ça. Et j'essaye vraiment de m'éloigner des traitements hormonaux qu'on peut me proposer, parce que de toute façon, pour l'endométriose, il n'y a que ça. À part la chirurgie, et comme je disais, moi, pour l'instant, je ne peux pas avoir de chirurgie. Et puis voilà, puis après, j'attends que ça passe, quoi.
Ben, toi, tu le disais, là, il y a la thérapie, donc...
Mais thérapie, genre compagnie de thérapie, c'est-tu genre psychologue?
Psychologie, là. Puis c'est démontré que la psychologie puis les médicaments ont exactement les mêmes effets, puis quand c'est pris en synergie ça fonctionne encore mieux, donc
Ouais. Ils disent en général que il y a 20% qui est attribué aux médications diverses là, puis 80% qui est attribué à ton hygiène de vie, ta psychothérapie,
ton social,
exactement.
Ouais.
Fait que tu sais, je pense que un peu comme tu disais, c'est important d'avoir des bonnes habitudes de vie, de savoir prédire les crises. Tu sais, comme, je sais qu'au début, moi, je les voyais pas venir pantoute, là. Mais après 10 ans, tu sais, c'est sûr, ça a pris du temps, là. Mais maintenant, aujourd'hui, je suis capable de dire, oh, OK, ça se passe. Je suis mieux d'intervenir avant d'avoir, qu'il soit trop tard, puis qu'on soit déjà dans le cycle.
T'as appris à te connaître, en fait.
Oui, comme tu disais, c'est ça, faut que t'apprennes à te connaître. Mais outre ça, le sport, c'est super important, tu sais, puis... pas nécessairement faire du sport 7 fois par semaine pendant 2 heures. C'est d'en faire, tu sais, d'aller prendre une marche, tu sais, faire une activité que vous aimez qui va vous faire du bien. Parce qu'en plus d'avoir l'effet libérateur de faire du sport, ben ça libère des endorphines, tu sais. Fait que tu te sens mieux après. Fait que c'est sûr que ça fait une grosse différence. Bien manger.
Le sexe aussi, ça.
Oui, mais il faut faire attention.
Mais moi, pour vrai, le sexe, c'est un calmant, là. Ça. c'est con, mais genre, masturbez-vous. C'est ça,
j'allais
dire.
Carrément.
Non?
Moi, je suis d'accord.
Pour vrai, mais c'est vrai. Ouais. Ça te relâche. En plus, t'es en concentration avec toi-même. Ouais. Tu reprends le contrôle de ton corps. C'est malade.
Puis la masturbation, c'est super bien pour les douleurs liées au cycle menstruel. Ouais. C'est vraiment super bien. Enfin, moi, j'adopte. Vraiment, c'est un conseil.
Puis, t'avais-tu...
Non, j'avais pas fini. Zelda, t'avais-tu d'autres trucs?
Je retournerai sur les médicaments aussi. C'est que les médicaments, en plus, on sait pas trop c'est quoi leur effet. Moi,
à long terme.
Ouais, c'est à long terme, aussi.
Mais aussi, tu sais, on sait pas comment ils agissent. Tu sais, tu les prends, mais genre, tu sais pas comment ça fonctionne. Puis moi, ça me pose problème là, de... prendre quelque chose, puis je sais pas pourquoi c'est censé fonctionner.
Comprendre comment fonctionne l'affaire.
Ouais. Puis les effets secondaires aussi des médicaments.
Ouais, ça c'est clair.
La liste, elle est hyper longue.
Puis c'est aléatoire, ça dépend de ton mood, ça dépend du médicament, ça dépend de la dose, ça dépend de la personne, ça dépend de ton âge. Parce que plus tu vieillis, mais ton corps réagit pas pareil aux affaires non plus.
C'est ça.
Parce que les hormones sont pas pareilles, autant chez les gars que chez les filles. Là. Et les gars aussi, on a une ménopause de chez les gars. ça peut pas pareil, puis c'est pas... mais c'est une affaire aussi pareille. Ouais. D'ailleurs... Il y a des pics d'hormones chez les gars, un peu comme les règles chez les filles, mais c'est des cas, c'est ce qu'on enseigne pas. Mais c'est ça, c'est peut-être le seul avantage là-dedans. Mais moi, par contre, quand j'étais jeune, là, moi, ça me pogne moins, là, mais quand j'étais jeune, pour vrai, j'avais des cycles de comme parfois, genre des. Genre, j'avais chaud, c'était horrible, pour vrai, là, j'avais chaud, j'avais envie de bouger. J'avais mal partout, mais c'était vraiment mes hormones là, qui agissaient. Puis c'était après ma poussée, là, c'était genre au cégep. Là, genre. Mais puis là, des semaines où j'étais horny, là, j'avais besoin de sexe, mais à un tel point là, où que j'étais tout le temps sur les nerfs aussi. Là, c'est que ça joue les hormones. Mais c'est. Puis prendre des hormones, là, ça joue là-dedans. Ça fait que tu vas avoir des crises d'humeur, tu vas avoir chaud, tu vas avoir des poussées de poils. Tu
la dépression.
Ouais.
La pilule, c'est la pire chose qui existe.
Mais ça c'est un autre affaire. Là, je veux pas qu'on se pose des affaires parce que c'est un truc que je veux parler prochainement. Mais
la
contraception et sexe, je veux vraiment en parler.
Moi, hyper chaud.
Ça, je me le mets dans mon affaire. Quand
non, mais c'est vrai, la pilule a des effets secondaires.
Ouais.
Mais c'est
chez les gars aussi, d'ailleurs. Moins, un peu moins, mais il y en a chez les gars.
Beaucoup moins chez les hommes.
Oh, ouais.
les vidéos sur Internet où comme, ils prennent leur fiche d'effets secondaires puis qu'ils se la mettent comme couverture, là, c'est hilarant.
Bah ouais, carrément. Ouais, ouais.
Puis moi, personnellement, pour gérer, même si c'est pas dans le même district, mais quand j'ai des grosses périodes d'anxiété, mais peu importe les émotions extrêmes que je vis, parce que c'est pas tout le temps extrême, mais en général, oui. En fait, j'ai pour les émotions positives, ben tant mieux. Moi, c'est des petits highs, c'est nice, je me sens... Mais pour vrai, c'est, je suis loin du monde, le monde pourrait me dire « va chier, j'étais comme « je t'aime pareil ». Genre, c'est vraiment, il n'y a rien qui pourrait détruire ce bouclier de joie que j'ai. Je suis imperméable à tout. Mais qu'est-ce que je fais souvent? Peu importe si c'est un high ou un low, ou si c'est la colère ou l'émotion, mais je vais faire de l'art. j'utilise ça pour faire de l'art. Moi,
c'est faut que tu l'extériorises.
Ah, mais moi, c'est comme ça que je le fais. Mais en parler, évidemment.
Non, mais ouais. D'un quelconque ouais. média qui te fait du bien. Si toi, ton mm-hmm. média, c'est de faire de la radio ouais. ou c'est de peinturer ou de dessiner, c'est important de l'extérioriser ouais. puis d'accepter ces sentiments-là.
Ouais.
Parce que l'être humain est un être cyclique. Hein. Tu sais, j'aurais pas cette maladie-là, j'aurais des highs puis des downs pareils. C'est juste que là, sont accentués
maintenant. Oui, ça, oui. Moi, moi, j'ai pas de cité. J'ai plus ou moins sais que j'ai été trigger personnellement, mais quand je sais à quoi faire attention, puis je sais, ok, ça m'a trigger, je vais. Fondamentalement, moi, c'est très relationnel avec les personnes en général, mes triggers. Mais.
Puis après aussi, je pense qu'il faut rappeler que on n'est pas obligé d'en parler nécessairement non, pour extérioriser.
Non, mais il y en a que oui, moi, il y en a que ça aide vraiment gros. Moi, par exemple, quand j'ai vraiment de colère ou d'anxiété, je l'écris puis je mets sur un truc sur Instagram où je mets tous mes écrits là, puis moi, c'est publié, c'est sorti de mon être, c'est sur la média, tout le monde le sait. Moi, hey, la radio, là, ça m'a aidé de. Hey, un épisode par semaine où il faut parler de ma vie. Ouf! Hey, moi, j'ai ma thérapie, c'est là. Moi, c'est live, ma thérapie. Mm-hmm. Mais c'est moi, c'est ça. Pas besoin de. Ça coûte moins cher aussi. mais ça veut pas dire que tout le monde fasse, parce que sinon, si tout le monde fait de la radio, mais c'est plus spécial. Mais non, ça, l'art. Moi, c'est l'art et le sport, là. Mais je mets ça un peu dans la même chose, là, parce que. En tout cas. Mais art et sport, là. Puis art d'hiver, là, je fais de l'impro, je fais du théâtre, je fais de la danse, je fais.
C'est trop cool.
Je chante quand je veux. Je chante pas bien, mais c'est pas grave. dessin, peinture, construction, écriture. Je fais beaucoup d'affaires.
Mm-hmm.
Puis j'ai vraiment genre. J'ai associé certains arts à certaines émotions parce que c'est des émotions qui sont plus prolifiques pour ça, par exemple. Fait que moi, c'est un gros conseil que j'ai déjà dit, mais faites des arts.
Mmh.
Vrai. Trouvez-vous, sans nécessairement être bon, là. Ça veut pas dire qu'il faut que tu sois bon, mais juste fais ce qu'il faut pour que tu vas bien. Puis si t'es pas bon dans cet art-là, on s'en fout. L'important, c'est que tu vas bien après.
Mmh. C'est ça.
Faire des tableaux avec de la musique. Non, mais c'est vrai, mais c'est relaxant. L'art-thérapie, très bon affaire à aller voir. Là, j'ai des amis qui étudient ça en plus.
Mais la musique, ça aide beaucoup aussi.
Ah oui.
Moi, je peux écouter du rock puis dormir là-dessus. si j'ai de la musique, ça m'aide à me concentrer puis à dormir.
Okay. Je pense qu'on a tous la musique, tu sais, la toune là, que tu mets puis que t'es comme oh, « je vais pleurer ma vie de Sylvester Carré ».
Parfois, j'écoute des vidéos tristes sur YouTube pour me faire pleurer, pour sortir, genre, j'arrive pas, je sais que j'ai quelque chose, mais j'arrive pas à le sortir. Fait que là, je vais me pousser en disant un truc qui a pas rapport, là, mais juste que je sais que ça va me faire pleurer, genre.
Ouais, t'as besoin de vivre
j'ai besoin de le sortir, ouais. Même si c'est pas relié, là. Écouter des films tristes, la gang, écouter des affaires tristes, pleurer une fois par jour. Mais c'est vrai.
C'est vrai que des fois, tu le sens que t'as envie de pleurer, puis ça vient pas, puis là, tu dis, hey, écoute.
Ou c'est pas le moment. Tu peux
je vais
pas.
Regarder en Disney.
Oui, j'avais une copine.
Écoute le Roi Lion.
J'avais une copine qui, pareil, elle arrivait pas à extérioriser tout ce qu'elle ressentait. Et un jour, elle s'est dit, c'est tout bête, hein, elle s'est dit, je vais me mettre dans ma douche et je vais écouter de la musique. Et elle restait dans la douche avec toute la musique. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, Victoria, j'étais dans la douche, j'écoute la musique et j'ai pleuré. Et ça a duré pendant 3 mois. Tous les jours, dans sa douche, elle pleurait. Et au bout de 3 mois, elle m'a dit, ça m'a fait du bien. Maintenant, je sais que je n'ai pas pleuré pendant 10 ans au moins. Bon, après, elle a repleuré, mais...
non, mais dans le sens que... C'est,
mais
en
ça
fait
du bien.
Parce qu'en fait, ça te libère aussi des affaires. Puis, je ne sais pas exactement c'est quoi, ça donne aussi de l'endorphine, mais plus ou moins. Mais ça te fatigue, pleurer.
Ouais.
C'est fatigant pour le corps, pleurer, ça t'aide à dormir après. Parfois, quand j'arrive pas à dormir, des fois, pour pleurer, pour dormir après. Si le sexe n'a pas marché, il faut pleurer
ça.
Après.
Soit tu te masturbes, soit tu pleures.
Ouais. Non, c'est le sexe, pleurer.
Après, pleurer après le sexe, alors ton partenaire est encore là pour ça.
Ouais. Okay, après masturbation, en fait. Ou pleurer à deux.
Ouais.
Mais non, ça, c'est parce qu'en fait, ça. Pleurer, ça t'enlève un poids de ton cœur. Même si t'avais rien à pleurer, là, juste ça va. Tu vas te sentir fatigué, puis tu vas juste te sentir genre, OK, j'ai vidé. Genre, j'ai pu. Parce qu'en fait, on a tout un petit verre d'eau qu'on accumule au fil de la journée, des semaines. Puis, parfois, t'as pas besoin de pleurer, c'est pas des émotions tristes, mais juste que pleurer va te faire vider ce verre d'eau-là. ça va vider des émotions. Parfois, ça peut être de la colère ou de la joie, mais ça va vider ces surplus d'émotions-là que tu n'as pas réussi à vivre, que tu as juste accumulé en fait, dans ta journée. Parce que moi, ça m'est arrivé, c'est quoi? C'est hier dans le bus, où j'étais dans le bus, puis à un moment donné, une partie de mon cours, j'avais envie de... J'écoutais de la musique, puis ça m'a fait... Je voulais pleurer, mais j'étais dans le bus. J'étais comme... Je pleurais pas dans le bus. Non, regardez, bizarre. Hein. J'étais comme là, j'attendais chez nous pour pouvoir pleurer. Genre. Mais du coup, j'ai accumulé en ce moment-là. Puis alors, chez nous, j'ai fait autre chose. Mais là, cette partie-là que j'ai pas pleuré, là, que j'ai accumulé, là, mais je vais la sortir genre demain ou après-demain, genre en pleurant sur une émission. Non, c'est pas vrai, c'est sorti. J'ai écouté un film, puis j'ai pleuré. Après, c'est sorti.
Mais aussi, quand t'es en prémenstruel, les hormones, tu dis que ça te fait pleurer. Là, tu vois un petit chaton, puis t'es comme...
C'est ça. Non, et moi, je me souviens quand je suis partie, quand j'ai pris mon avion pour venir ici, j'étais à l'aéroport avec mes parents et ma mère m'accompagnait au Québec. J'ai laissé mon père et moi, je pleure que quand je suis triste et je pleure rarement quand je suis contente ou quand je suis émue. Et là, j'ai pleuré. J'étais même pas triste, j'étais juste très émue de partir et de. Ça m'est jamais arrivé, je me sentais très bizarre et après, j'ai regardé ma mère dans l'avion. Je lui ai dit, maman, j'ai vraiment pleuré parce que j'étais émue. Elle m'a dit, oui, ma chérie, ça arrive de temps en temps. Tu es une femme, un être humain, c'est normal. Mais c'est bien aussi, il faut pleurer quand on est triste. Mais il faut aussi pleurer quand...
Quand tu l'es pas.
Quand tu l'es pas pour extérioriser. Mais, quoi.
Ça me fait penser au trouble bipolaire aussi. Oh.
Ouais.
Je sais.
On a déjà dû penser beaucoup. Vous avez déjà eu le droit à 2 minutes de plus, la gang. Okay. Vous êtes tellement chanceux. Nous, on va continuer à parler de ce sujet-là, dans votre dos. On s'excuse. Faites des riots pour que ça dure plus longtemps. Sinon, on vous souhaite un bon sac à bite pour après, pour ceux qui y vont, ou de la révision, parce qu'on est en semaine de mi-session. On vous souhaite aussi, on va être là. Moi, je vais être là, en tout cas, pour la. On va être là. Julie va être avec moi la semaine prochaine. Jeudi prochain, pour une émission sur parents-études. Comment c'est d'avoir des kids à la maison et d'étudier. Un cours pour demain. Merci d'être venu. On vous rappelle que c'est important de parler, de si vous avez besoin d'aide, il y a des amis, il y a l'école avec la psychologie, il y a le truc de santé de l'université, il y a les hôpitaux, il y a un inconnu dans la rue, vous pouvez essayer, là. Sinon, il y a les arts, il y a des médications, donc allez chercher de l'aide, il y a une communauté qui est là pour vous aider. Et on vous souhaite une bonne fin de journée.
Au revoir.